Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Hello. 9h40 sur France Inter, l'instant M, c'est parti, profitez-en.
Vous êtes en direct, allez-y.
Le film dont je vous parle ce matin nous habite depuis plusieurs jours. On l'a regardé, certains d'entre nous ont craqué, laissant aller les sanglots, comme pour dire une souffrance et une peur qu'un enfant, lui, a tant de mal à exprimer. C'est l'histoire d'un enfant placé en famille d'accueil, c'est l'histoire d'un enfant arraché, c'est l'histoire d'un enfant pris dans un insurmontable conflit de loyauté. Ce film, nous, l'équipe de l'Instant M, nous l'avons vu et nous l'avons en nous depuis plusieurs jours. Il ne nous quitte pas, il ne vous quittera pas. Il est déchirant, mais il est aussi très doux, très pudique, et on veut y voir de l'espoir.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Mélissa Theuriau.
Bonjour Sonia.
Vous êtes la productrice de ce film, un film que vous avez également initié et porté. Il s'appelle Itinéraire d'un enfant placé. Il est diffusé ce soir sur Arte à 23h45. Alors pour certains d'entre nous, ceux qui ont des enfants notamment,
absolument,
ou un boulot le lendemain matin, ça fait tard. Il faut quand même signaler que sur Arte, c'est 30 jours de replay et ça c'est exceptionnel. Et c'est un vrai bonheur parce que ça nous permet
de récupérer plein de
pépites. La réalisatrice s'appelle Katie Rios Palma. Elle dédie ce film à son père, pourquoi ?
Elle dédie ce film à son papa, qui est un ancien enfant de la DAS, en fait, et qui lui-même a suivi ce parcours de placement en famille.
Voilà, donc elle-même
c'était un film qu'elle voulait initier et qu'elle fera un jour, j'en suis certaine.
Voilà, elle voulait raconter l'histoire de son père.
Elle est venue me trouver pour faire ce film. Et il était compliqué à monter au moment où elle est venue me voir. Et je lui ai présenté Yanni, parce que ça faisait déjà des années, en tout cas presque 2 ans, qu'on voulait faire ce film, que je voulais le faire avec Yanni, qui avait ce désir. C'est assez rare aussi d'avoir un enfant mineur qui souhaitait aussi initier ce film et apparaître sans floutage. Et c'est vrai que Katie est apparue comme la réalisatrice qui avait vraiment la sensibilité, l'absence de jugement, le recul. J'ai déjà collaboré avec elle et je savais que cette rencontre allait marcher.
Rencontre d'une réalisatrice et d'une productrice. Bonjour Romain Nigita.
Bonjour Sonia.
Alors on fait un petit détour parce qu'on est mardi par l'actualité des séries. Rien à voir avec le sujet du jour. Vous, c'est deux séries policières dont vous nous parlez ce matin. Deux séries inspirées de faits divers bien réels. On commence avec American Crime Story, diffusée sur Canal+ dès jeudi soir. La première saison était consacrée à l'affaire O.J. Simpson. C'était absolument génial.
Formidable.
Voilà, on peut la revoir d'ailleurs sur Netflix. La deuxième retrace, elle, l'assassinat de Gianni Versace. Au casting, d'ailleurs, une Donatella Versace jouée par Penelope Cruz, rien que ça.
Tout à fait, Gianni Versace, donc le créateur de mode qui avait été abattu devant sa villa de Miami en 1997. C'était la mort d'un homme au destin hors du commun.
Every morning when you wake up and every evening when you go to sleep, I want you to remember that you're special. And that when you feel special, success will follow.
Donc tous les matins quand tu te réveilles et tous les soirs quand tu t'endors, je veux que tu te souviennes que tu es exceptionnel. Quand on se sent exceptionnel, le succès arrive. C'est le discours d'un père à son fils, mais l'enfant n'est pas du tout Versace, c'est en fait son futur assassin. Car la série se concentre sur l'itinéraire du meurtrier et revient sur chacun des hommes qu'il a tués précédemment en remontant le fil du temps. L'acteur Darren Criss est vraiment bluffant dans ce rôle d'un jeune mythomane qui ne désire qu'une seule chose, devenir quelqu'un à tout prix. C'est un traitement donc très différent de l'affaire O.J. Simpson, mais c'est pour un résultat tout aussi réussi.
Alors la saison 1, en plongeant dans l'affaire O.J. Simpson, parlait surtout du racisme aux États-Unis avec Versace. C'est l'occasion d'une réflexion sur la communauté homosexuelle, autopsie, on va dire là, sous toutes ses facettes, Romain.
Toutes ses facettes au fil des différentes victimes du tueur. Versace, tout comme ce tueur, était donc gay. On assiste notamment à la façon dont le compagnon de Versace sera véritablement ostracisé par la famille après la mort du créateur. C'est un personnage d'ailleurs qui est joué par Ricky Martin, le chanteur de Undo Stress, qui maintenant se recycle comme acteur. On suit aussi les errements de la police américaine qui est limitée dans son enquête par ses propres préjugés. Les inspecteurs sont incapables d'imaginer deux hommes vivre ensemble sans que l'un des deux ne soit payé pour ça. C'est absolument incroyable. Un épisode met par ailleurs en parallèle le coming out de Versace dans un magazine prestigieux. Et face à ça, on a le témoignage anonyme de l'une des victimes du tueur, qui est un jeune soldat qui doit faire face à l'homophobie dans l'armée américaine.
Alors, autre série et autre conseil pour ce matin, c'est encore un fait divers. Vous nous conseillez, Law and Order, True Crime, l'affaire Menendez. C'est sur 13e rue.
C'est sur 13e rue et la franchise Law and Order, on la connaît forcément pour ça. Oui, ce sont les séries policières New York District et New York Unité Spéciale avec ce fameux bruitage sonore de Mike Post. Des séries policières qui s'inspirent déjà ponctuellement de faits divers. Et cette nouvelle déclinaison va reconstituer de grandes affaires sur des saisons entières. Ouais. C'est donc la même formule que American Crime Story. Et la première saison de True Crime est elle aussi totalement passionnante. Elle raconte l'assassinat d'un couple de millionnaires par leurs deux fils. Un double crime resté célèbre outre-Atlantique. On suit donc l'enquête et surtout le procès des deux frères avec le cirque médiatique qui va avec. Là aussi, le casting est haut de gamme. L'avocate, c'est Eddie Falco, la femme de Tony Soprano dans Les Sopranos. Ouais. Et le juge, c'est Anthony Edwards, qui était l'inoubliable Dr. Green dans Urgence.
Alors, je récapitule. American Crime Story, c'est Versace, c'est sur Canal à partir de jeudi. Et Law and Order version True Crime, c'est actuellement sur 13e rue. Merci Romain. À mardi prochain.
À mardi prochain.
L'Instant M sur France Inter.
Mélissa Torio est l'invitée de l'Instant M ce matin. L'histoire de Yanni, qu'on vous raconte à travers ce film, Itinéraire d'un enfant placé, c'est l'histoire d'un arrachement. Yanni a été placé chez Jacques et chez Myriam de 1 an à 14 ans. Jacques et Myriam l'ont aimé, l'ont entouré. Jacques et Myriam vont prendre leur retraite. C'est d'ailleurs parmi les premiers mots du film. Est-ce que quand on est une famille d'accueil, prendre sa retraite, c'est prendre une retraite comme n'importe quel travailleur prendrait sa retraite ?
J'arrive plus à dormir.
C'est normal, ça travaille quand même.
Oui.
Les gens qui prennent leur retraite, ça doit être pareil aussi. Hein.
Oh, ça n'a rien à voir. Yannis, je t'ai déjà dit que de toute façon, on ne t'abandonnait surtout pas. Quand tu viendras ici, tu nous prendras après pour tes grands-parents.
C'est leur décision de prendre la retraite. C'est la loi, c'est le règlement. C'est le règlement.
Oui, je crois que c'est un concours de plein de choses. C'est-à-dire qu'un placement de 13 ans, puisque c'est le cas de Yanni, c'est exceptionnel. Ça n'arrive pas. Généralement, l'aide sociale à l'enfance place des enfants en famille d'accueil. Alors, il n'y a pas de durée type. Hein. C'est entre 4, 5 ans. Ça peut aller jusqu'à 8 ans même. Mmh. C'est déjà énorme. 13 ans, c'était une durée exceptionnelle. Je pense que Myriam et Jacques Huneau ont été encouragés aussi à... n'ont pas passé la main, mais en effet, ils atteignaient un âge aussi un peu âgé.
65 et 70 ans. Et
oui, légitimement, ils avaient aussi le droit de voyager, de profiter de leur famille, de profiter aussi un peu de leur vie. Donc je pense qu'ils ont été un peu poussés et qu'ils se sont dit aussi, c'est peut-être le moment qu'on passe le relais. Yanni devient un adolescent, il prend aussi beaucoup de place, c'est actif.
Hein. Alors Yanni, il a été placé parce que sa mère était en prison à l'époque, lors de sa toute petite enfance. Une petite parenthèse, Mélissa Torio, son père est toujours incarcéré dans le film. Il y a une visite au parloir. Comment avez-vous obtenu l'autorisation de l'administration pénitentiaire de filmer un détenu à visage découvert ? C'est extrêmement rare.
Mais tout est extrêmement rare. Virginie en réinsertion qui nous dit oui. Pour moi, c'est une des plus belles victoires et la confiance qu'elle nous donne, je tiens à la saluer. Peut-être qu'elle nous écoute d'ailleurs. Ce père Tony qui est incarcéré et c'est la patience et la persévérance qui ont rendu ce film possible. Mmh. Quand je vous parlais de 2 ans pour obtenir tous les accords, c'est à peu près ça. Mmh. Madame Noailles, qui dirige ce service de l'association Montjoie, hein, qui dépend un peu aussi de cette protection de l'enfance, il a dû falloir y aller tellement pour les convaincre. Toujours appuyé par le désir de Yanni, hein, qui était très fort. Et puis, petit à petit, tout est tombé et les feux sont devenus verts, y compris la direction de l'administration pénitentiaire qui vraiment, et je les salue aussi, ont eu le courage aussi de nous laisser pénétrer et filmer ce parloir assez exceptionnel entre Yanni et son papa.
À visage découvert, c'est des séquences qu'on voit peu à la télévision. Alors, le niveau d'angoisse que tout ça va engendrer chez Yanni, l'arrachement à cette première famille, à Myriam et Jacques, la séparation, tout reconstruire dans une nouvelle famille. En fait, l'enjeu de ce film, c'est d'arriver à mettre en scène et à faire passer tout ce que Yanni garde en lui, cette colère et cette peur. C'est la peur qui revient tout le temps, tout le temps.
Oui, beaucoup d'effroi et beaucoup de peur. En fait, ce film, il est né aussi de ce constat, c'est que ces enfants sont des enfants très institutionnalisés. On le voit dans le film, c'est beaucoup d'adultes qui décident pour un enfant. Alors c'est déjà le cas quand on est
beaucoup
ado en famille.
Beaucoup de procédures, beaucoup.
Tout, oui. Aller à un goûter d'anniversaire ou demander à aller chez Myriam et Jacques un week-end. Enfin, je veux dire, ça peut prendre des semaines avant que tous les adultes se soient mis d'accord et aient décidé pour le bien de l'enfant, évidemment. Donc ce film, c'était aussi de son désir de lui dire, voilà, là, ça sera ta voix, tes émotions, ton ressenti, c'est toi qui as la parole. Et si c'est mieux dans tes cahiers que tu arrives à écrire les mots, on trouvera une façon que tu puisses les exprimer. Et c'était l'idée de lui confier une petite caméra aussi, oui, pour qu'il y ait ces moments intimes qui lui ont fait beaucoup de bien parce qu'il pouvait lâcher des émotions évidemment fortes.
Alors je l'ai dit, c'est aussi l'histoire d'un conflit de loyauté. C'est sans doute ce qu'il y a de plus déchirant dans ce film. Il arrive dans une nouvelle famille, Yanni, mais il tient grâce à la promesse qu'il reverra Myriam et Jacques, que ce n'est pas un abandon, ce départ à la retraite. Première retrouvaille, ce qui est frappant, c'est la tendresse physique qui les unit, hein, vraiment, c'est très émouvant. Et là, Yanni commet quelque chose d'irréparable, un faux pas, sans doute inconscient. Il ne donne pas de nouvelles ce week-end-là à sa mère biologique. C'est là que le film bascule, c'est là que la situation dégénère. On entend ce que la mère va exiger de cet enfant, c'est-à-dire une rupture totale avec sa première famille d'accueil.
Yanni, attention, il est sanctionné. C'est pas qu'il récupérera jamais son téléphone, hein. Oui. J'ai pas dit ça.
C'est difficile de couper ce lien, après je pense qu'il
faut l'aider. Je demande pas qu'il coupe, oui, je demande qu'il mette les choses à sa place. La mère, c'est la mère. La famille d'accueil, c'est une famille d'accueil. Faut pas, je sais pas. D'accord? Il y a eu la séparation. Si j'apprends texto, vidéo, je sais pas quoi, attention. On est d'accord? Hein?
Et là, forcément, c'est...
Ouais, j'ai le regard de Yanni en tête sur ce moment qui est très fort et qui continue, moi, de me bouleverser.
Cette séquence se termine par la mère qui dit « Fais-moi un bisou ».
Ouais, parce qu'il y a le chaud et le froid. Voilà. Il y a aussi « Je suis ta
et
maman,
donc elle
embrasse-moi ».
Elle prend son fils dans les bras et là, il a un
regard. Mais il est
regard.
Vidé. Ah ouais, il y a plus...
Et c'est frappant parce que, justement, la séquence précédente, c'est les retrouvailles avec Myriam et Jacques, où là, au contraire, il y a une tendresse physique.
Ouais.
Je vous sens émue, hein,
de
remuer tout ça.
Ouais. Je suis très émue. Et puis, il y a Virginie qui essaie de retrouver sa place de mère aussi. Mmh. Évidemment, avec toute la maladresse et la violence qu'on peut citer ou qu'on peut entendre là dans les extraits que vous choisissez. Mais il y a de l'amour qu'elle exprime d'une autre façon dans d'autres moments du film. Alors, d'ailleurs. Et il y a une volonté quand même, évidemment, de reprendre ce gosse, cet enfant qui est le sien, qui est le seul qu'elle a et qu'elle n'a pas pu élever.
Il y a de l'amour et en même temps, on sent bien que Virginie est une femme complètement brisée. D'ailleurs, on peut dire un mot de son apparence physique.
Oui, oui.
C'est une femme extrêmement maigre, édentée. Enfin,
elle est jeune, hein, pourtant.
Voilà.
Oui, oui, elle est
abîmée. On sent qu'elle est vraiment fracassée par la vie. Voilà une séquence, là aussi, très dure, où elle parle d'amour à son fils.
Ton père et moi, c'était pas de l'amour. On s'est mis ensemble quand moi, j'avais 16 ans, je crois. Lui, il en avait 20. Il sortait de prison. Moi, je faisais la manche à la place d'Alençon. Comme on se connaissait, tu vois, on a dit, bah vas-y, on est dans la merde tous les deux. Bah, on se soutient. C'était juste une présence. On s'est jamais promis de vivre ensemble, d'avoir des marmots. Non, on s'est jamais promis ça, Yanni. Est-ce que tu m'as déjà entendu de ma bouche te dire, ouais, j'aime ton père, je vais faire toute ma vie avec, c'est l'homme de ma vie.
Non.
Parfois, quand on regarde ce film, Mélissa Torio, on se demande comment Katie Rios-Palma, la réalisatrice, a pu filmer tout ça avec autant à la fois de pudeur et de douceur, et en même temps rentrer au cœur quand même de quelque chose qui est si cruel et qui est si
intime.
Dur et si intime.
C'est tout le temps passé avant. C'est le temps d'obtenir la confiance de Virginie. Ça a été long. Hein. Elle ne nous a pas dit oui tout de suite. C'est le désir de Yanni qui, là aussi, en acte d'amour, je pense, elle a fini par accepter. Et Sébastien Kogler et Katie Rios-Palma, je cite Sébastien qui est à l'image aussi, et ils sont tous les deux toujours terrés et appuyés contre un mur. Et vraiment, ils sont oubliés par Yanni et sa maman. J'en reparlais avec Yanni encore hier. Il a vu le film. Et je pense qu'il doit le digérer aussi, il a été bien bouleversé. Et il me dit, on les voyait pas, enfin, on ne les voyait plus. C'est aussi ça la force du documentaire, quand on arrive à passer le temps qu'il faut et avoir cette patience.
Il y a quelque chose que montre, et c'est presque un fil rouge en termes de mise en scène, votre réalisatrice et son cadreur, il y a des animaux tout au long du film. Comme il y a des poules dans la première famille, il y a des chèvres dans la deuxième famille, il y a même un petit lapin dans cet appart où il n'y a plus rien chez la maman. Il y a un petit lapin sur la terrasse, il y a des chats, il y a des chiens, il y a des chevaux. Il y a comme une espèce de métaphore de l'enfance, il y a comme un support affectif qui manque tellement à Yanni dans ce déchirement.
Vous avez vu ses premiers mots quand il arrive chez Vlasia et William, cette nouvelle famille?
Oui.
Et il a sa petite caméra qu'on lui a confiée. Et le premier zoom qu'il fait, c'est une biche qui est terrée dans la forêt. Et il dit, je crois que je vais être bien.
Voilà.
Je vois ça depuis ma fenêtre. Parce qu'il y a ce rapport à la nature, aux animaux aussi, qui apaise. Et ouais. C'est ce rapport à l'enfance aussi que vous citez.
Alors, extrait du journal intime, justement, puisque c'est la grande force de ce film, c'est d'avoir filmé le journal intime de Yanni.
Si je ne veux pas de mes parents, je ne serai le fils de personne. Autrement dit, je suis le gamin de personne. Un gamin, oui, mais un gamin orphelin. Fils de personne, fils de soi-même et fier de l'être.
Il a juste 14 ans.
Vous savez les mots qu'il arrive à mettre sur ce dessin.
Ouais, il a juste 14 ans. Ouais, seulement 14 ans. Et c'est là où on sent tout l'enjeu de ce film, c'est-à-dire ne pas réussir à être le fils de sa mère, et on sent que sa mère...
Il veut s'en défaire.
Il veut s'en défaire. Son emprise est extrêmement toxique, difficile à vivre, extrêmement difficile. Il y a tout le rôle de l'assistance sociale, quand même, qui est posé hein, dans ce film. Et il y a des moments où on ne les comprend pas. Il y a des moments où on ne les comprend pas. On sent bien qu'ils ne peuvent pas se substituer à un juge, en aucun cas. Je ne sais pas si vous avez vu le film d'Ovidie qui a été diffusé sur Arte récemment et qui montre bien ça en Suède, c'est-à-dire la toute-puissance des réseaux sociaux qui arrachent des enfants à leur mère au nom de l'ordre et la morale. Absolument. Et ça donne des choses atroces. Et en même temps...
Nous, on a l'inverse en France.
Voilà.
On est sur le retour en famille de sa famille originelle et c'est ce que la ZEU veut aussi encourager. Maintenant, je pense qu'un film comme celui-ci peut être utile parce que eux-mêmes voient aussi de l'intérieur ce que peut vivre un enfant.
C'est ça.
Qu'on encourage de revenir chez sa maman naturelle, elle est sortie de prison, c'est bon, on a donc un parent, hop, qui peut reprendre son enfant. Et c'est pas si simple.
Laisser une mère séparer totalement l'enfant de 14 ans de famille d'accueil, enfin, c'est une cruauté effrayante.
Et vous parliez tout à l'heure de conflit de loyauté, c'est très juste.
Oui.
Je suis heureuse que vous l'ayez vécu ou vu comme ça parce que Yanni l'est pris dans ne pas vexer, ne pas peiner. Ni maman, ni Myriam et Jacques, ni William et Vlasia qui font de leur mieux, ni Monsieur Goury, l'éducateur qui est là depuis le début, parce que chacun fait de son mieux, chacun est là.
Ni son père qui est en prison et qu'il va visiter.
Ni Tony qui est en prison, absolument. Donc ça fait beaucoup d'adultes et beaucoup de gens importants pour Yanni, et il faut surtout essayer de marcher sur des œufs
tout le
temps. Et d'embêter personne. D'où la nécessité de ce film, de lui laisser à un moment la parole. Quoi,
d'ailleurs, c'est aussi l'histoire d'une transformation physique, parce que le film est tourné en peu de temps, et le corps de Yanni change à l'image. Racontez comment il évolue, Yanni.
Bah oui, on a eu sa mue d'ailleurs, parce qu'on a une petite voix et un garçon très poupon, un peu enveloppé, avec cette petite voix d'ailleurs cristalline d'enfant. Moi, je l'avais rencontré il y a quelques années, il avait 10 ans quand il allait voir Virginie au parloir. Donc, il visitait sa maman avec Myriam et Jacques à l'époque, et il était flouté, il l'avait très mal vécu. Il disait déjà, oui, moi je suis pas un délinquant et je suis pas maman, et moi ce que je ressens, alors si je suis flouté... Je suis personne.
Mais c'est quelque chose qui dit
déjà
tout le temps,
en quête d'identité.
C'est ça, en quête d'identité. Et c'est quelque chose qui revient tout le temps dans son journal intime. C'est et si on ne me comprend pas, et si on ne me comprend pas, et si on ne m'entend pas, et si on ne me comprend pas, c'est quelque chose qui revient en permanence. Et donc là, on voit naître un ado assez costaud avec une coiffure une coiffure assez rebelle. C'est quand même un gamin qui va exploser de colère. Ça va se finir à l'hôpital avec des médocs. Enfin, c'est quand même l'histoire de quelque chose qui est contenu et qui n'arrive pas à sortir.
C'est
ce
exactement.
Film.
Ça. Oui, oui. Et puis on est encore dedans, et puis il y a des chutes, et puis il faut se relever. Et c'est tout ça. Cette année, elle était quand même charnière. C'est génial qu'on ait pu avoir ces autorisations et être là au moment,
pile à ce moment-là,
où il y a cet arrachement. Parce qu'on est plus que l'itinéraire d'un enfant placé, on est sur un enfant déplacé. Mmh. Et c'est super d'avoir pu le montrer. Il n'y a que le temps qui peut montrer, en effet, ce que ça peut produire sur ces enfants.
Merci beaucoup, Mélissa Thoriot. Itinéraire, d'un enfant placé, c'est ce soir à 23h45 sur Arte et ensuite pendant 30 jours en replay. Bonjour, Julia Foyce.
Oui, bonjour, Sonia. Bonjour.